Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 42, la mensuelle. Des Mickey, des députés et des utopies.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
Bonjour à tous, bienvenue dans la toute dernière mensuelle de l'année. Ici, une fois par mois, depuis 9 mois, on vous raconte les coulisses du Parlement européen. Maxime Calgaro, qui est un ancien eurocrate, y est notre envoyé spécial. Et en cette année électorale, il a tenté de toutes ses forces de comprendre les gros dossiers européens et nous les expliquer, tels qu'ils sont appréhendés, suivis, négociés depuis l'intérieur. Pas facile, merci d'avoir accepté cette mission. Maxime, bonjour.
Salut Caroline.
Et ce dimanche, pour clôturer la saison par une sorte de forme d'apothéose, au lieu que tu viennes en studio à Paris, tu m'as proposé de venir te rejoindre à Bruxelles. Et pour me convaincre, tu m'as dit que c'était une période post-électorale assez fascinante, puisque tu avais plein de députés désœuvrés qui débarquent de leurs pays respectifs pour s'installer dans leurs nouveaux bureaux, plein d'assistants parlementaires qui cherchent à trouver du travail et du coup qui font des coups bas, qui se retrouvent dans les couloirs, qui négocient, et que c'est une période assez rigolote à observer.
C'est une période hyper excitante. On est sur mon terrain, à Bruxelles, au Parlement européen et pas à la Maison de la Radio. Et donc là, moi, je t'ai donné rendez-vous au Mickey Mouse Bar.
Alors, on adore qu'il y ait un bar qui s'appelle le Mickey Mouse au cœur des institutions européennes. C'est pas du tout sérieux parce qu'en plus, c'est un bar avec des chaises de toutes les couleurs. Vraiment, voilà. Je m'attendais pas à ça et c'est absurde. Pourquoi est-ce que ce bar s'appelle comme ça?
Alors, le Mickey Mouse Bar, la légende veut que ce soit Margaret Thatcher qui ait donné ce nom au bar parce qu'à l'époque, les chaises avaient la forme des oreilles de Mickey. Depuis, les chaises ont dégagé, mais le nom est resté et il y a un artiste estonien qui a offert au Parlement une espèce de grande peinture de Mickey qui court complètement affolée. Et ça rend bien un peu l'atmosphère du lieu, parce que c'est ici que depuis deux semaines, on s'affaire, on négocie, où est-ce que les gens vont atterrir, des rapports de force entre les groupes se sont formés, on a les nouvelles familles politiques du Parlement européen. Et tout ça se fait dans l'ambiance un peu déjantée du Mickey Mouse Bar.
Et donc moi je vois des gens de tous les âges, certains habillés de façon plus chic que d'autres, j'entends parler en plein de langues, mais je décrypte pas trop ce qui se trame. Toi, quand tu regardes cette salle, tu vois qui est qui, t'arrives à deviner qu'est-ce qui se joue?
Alors ils sont pas là, mais hier par exemple, il y avait une table de 20 personnes avec des bières, donc ça c'était les gens du UKIP. Donc les Anglais britanniques qui sont à la bière très tôt. On a vu aussi débarquer Jordan Bardella, Marine Le Pen, Gilbert Collard et leurs affidés du Front National qui venaient pour trouver le nouveau nom de leur groupe d'extrême droite.
Ils se réunissent pas dans les bureaux, alors ils se réunissent ici?
Personne n'a vraiment de bureau. Hein. Il y a les députés sortants ont des bureaux, mais comme on est en train de rénover plusieurs étages du Parlement européen, certains ont été déplacés dans une autre partie du bâtiment. Donc c'est un peu bizarre parce qu'on se retrouve tous ici. Les nouveaux députés ne seront députés que le 2 juillet, lors de la première session plénière de Strasbourg. Mais entre-temps, Nathalie Loiseau, Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy, s'ils sont déjà venus ici, certains oui parce que je les ai vus, d'autres je ne sais pas, ben, eux sont là, alors ils ont un badge un peu temporaire, on ne sait pas, on dit monsieur le député, madame la députée, on ne sait pas trop. Et il y a une espèce de balai intéressant entre ceux qui vont partir, mais qui ont un badge valide jusqu'au 1er juillet, et puis ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont pas encore bien installés.
Et qui vont découvrir le Mickey Mouse Bar, et je pense que ça va leur réchauffer le cœur quelque part de savoir qu'il y a un endroit qui s'appelle comme ça dans leur nouveau lieu de travail.
Voilà, vous pensez être élu au Parlement européen, vous êtes membre du club Mickey.
Alors dans cette émission, on va aussi retourner dans le passé, puisque toute l'année tu as décortiqué les gros dossiers de l'Union européenne, les quotas de pêche, de la culture, aux lanceurs d'alerte, la fiscalité, la PAC. Et tu as bien voulu donc aujourd'hui reprendre tous ces dossiers pour voir concrètement en un an ce qui a pu bouger. Et enfin, en dernière partie d'émission, on sera avec un jeune homme qui va vous parler d'avenir, qui a imaginé des scénarios possibles pour la suite, pour cet été et au-delà, sur le continent européen. C'est parti, on va se mettre dans un lieu plus tranquille.
Au calme, dans une salle de commission parlementaire.
Ça, c'est chic.
C'est la classe.
Full Continental sur France Inter.
Donc là, on est dans la banane.
C'est le bâtiment provisoire des députés.
Ciao.
Tu bene?
Sì, non c'è male.
Resti?
No, io parto.
Parte?
Sì, sì.
Dove vai?
In Thailandia. Cambio regione, continente.
On traverse quelque chose, une passerelle.
On change d'univers.
Ah.
Là, on passe de la banane, qui a son nom à cause de sa forme, au bâtiment Altiero Spinelli, un résistant communiste qui avait été enfermé dans les geôles de Mussolini. et qui a écrit sur des petits papiers qu'il avait trouvés par terre un manifeste pour l'Europe. Et c'était encore l'époque où l'Europe marchait vraiment sur ses deux jambes, parce que ce qui a fait l'Europe, c'est l'alliance des chrétiens démocrates comme Schuman, Adenauer, avec des gens comme Altiero Spinelli, qui étaient communistes, mais qui voyaient dans l'Europe le moyen de se sauver contre le nationalisme et le fascisme. Voilà. T'es déjà venu ici ?
Ouais.
Il y a des cabines téléphoniques qui ne servent à pas grand-chose. Tout le monde a un téléphone portable, faudra leur dire. Mais ça, c'est des pièces d'histoire. Ça, ce sont ce qu'on appelle les pigeonholes, les panières à pigeons. C'est là, au fait, qu'on peut aller déposer un petit message pour les députés européens.
Oh, génial, donc, il y a un député qui s'appelle Björk.
Italie.
Ah oui, il y a marqué donc en haut.
Hongrie. Belgique. Ah, mais ils ont enlevé les noms.
Belgique se partage avec les Pays-Bas, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de députés. On a enlevé les étiquettes avec les noms.
Voilà, mais si tu veux laisser un message
donc
tu le mets là, il est récupéré derrière et ensuite il est redistribué au bureau.
Et t'envoies quel genre de message à un député ?
Des billets d'amour.
Des menaces de mort ?
Des menaces de mort, je sais pas. Des billets d'amour, sûrement. Des gros formulaires pour faire venir des visiteurs, très probablement. J'en ai vu. Et donc, intéressant, les Britanniques ont déjà leur boîte aux lettres, alors que les Français, non.
Et les Britanniques qui, du coup, n'étaient pas censés être là pour cette nouvelle mandature. Ah, et là, il y a la boîte aux lettres de Farage, Nigel.
Que j'ai vu passer hier, donc il est dans le coin.
Nigel Farage, qui est donc le député eurosceptique du UKIP, qui est maintenant parlementaire européen, et qui a milité pour le Brexit. Tout ça est très ironique.
Qui a milité pour le Brexit, mais qui n'a jamais été que député européen.
On traverse des bureaux. Ici, on est dans l'espace presse, donc on voit des journalistes en train de faire des interviews.
Ça, c'est Marco Zanni, qui vient d'être choisi le nouveau leader du groupe d'extrême droite. Hier, il y avait Jordan Bardella, Marine Le Pen, Gilbert Collard, tous les députés du FN qui étaient là, côté du bar. Et donc, le groupe vient de changer de nom et il s'appelle... Alors avant, il s'appelait l'Europe des Nations et des Libertés. Maintenant, ça s'appelle Europe Démocratie et Identité. Et c'est Marco Zanni qui va en prendre la tête. Et alors Marco, c'est marrant parce que moi, je l'ai connu quand il était du mouvement 5 étoiles, parce que le mouvement 5 étoiles, on ne sait pas vraiment ce que c'est, au fait. Il y a de tout, il y a des libéraux, il y a des verts, il y a des fascistes, voilà.
Donc c'est un parti italien, rappelons-le, pour ceux qui n'ont pas suivi.
Et donc lui, il a un parcours intéressant parce qu'il a été dans la banque. C'était un banquier avant. Et il a vu tout ce qui ne lui plaisait pas dans le monde de la banque et il s'est fait élire sur une liste du mouvement 5 étoiles lors de la dernière législature en disant « Moi, je vais siéger en commission économique et je vais nettoyer les écuries d'Augias, les banques, voilà. » Et puis en fait, en milieu de mandat, il s'est découvert une allergie à l'euro. Et il s'est dit « Au fait, l'euro, c'est la source de tous nos maux. » Et il est passé avec le Front National. Moi, je le connais parce qu'il était en commission des budgets avec moi... Il était en commission des budgets. Ciao.
Il était en beau costume bleu.
Et alors lui,
il se la pète un peu. Hein. Tu sens qu'il a quand même
donc lui,
pris
il était,
des hautes fonctions. Ah, il se fait suivre par une grosse commission quand il quitte la salle.
Et t'as vu, il y a 20
personnes
qui le suivent. Il m'a pas dit
bonjour.
Suivre.
Non, il t'a pas dit.
Alors qu'avant, il me disait salut Maxime. T'as changé, Marco. Hein.
Et là.
Ça, c'est la salle de plénière.
Non, c'est fermé.
La démocratie n'est pas ouverte 24 heures sur 24, Caroline.
Je pensais que le monsieur en sortait. Là, on est devant le hublot qui donne. On a vu sur l'hémicycle. On voit plein de bureaux avec des petits micros, des petits casques pour les traducteurs. Tout autour, il y a des box pour les traducteurs. Au centre, il y a
le podium.
Il y a le podium avec qui on met là-dessus sur le podium.
On met le président à sa droite. On mettra le secrétaire général. Ensuite, les vice-présidents sur les côtés. Et puis on leur fera passer des petites feuilles, les huissiers en costard noir avec une petite chaînette autour du cou qui font passer des dossiers ou les messages que les députés veulent envoyer au président.
Et puis on a plein de drapeaux et au centre évidemment le drapeau européen. Là j'adore, ça s'appelle le Welcome Village 2019-2024 pour accueillir les nouveaux arrivés. Et je me demandais, quand on est un nouveau député et qu'on arrive ici de son pays, on doit être un peu perdu. Ça doit être assez étonnant. Pour certains, c'est peut-être leur première fois à Bruxelles. Non, peut-être pas quand même.
Non, si, c'est possible. C'est pour ça qu'on a le Welcome Village. Alors tu vois, il y a une petite boussole. On est accueilli par Simone Veil, Robert Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak. On est dirigé ici. On a un code Wi-Fi tout de suite. On vous donne une palette. C'est le guide d'arrivée des députés, c'est ça ?
Et là, vous avez un trombinoscope.
On a les noms des nouveaux députés et les anciens.
On va aller voir s'il y a des village people dans le Welcome Village.
Ils parlent quelle langue, eux ?
Je crois que c'est du portugais.
On entend du cliquetis de badge contre leur poitrine. Eux, ils ont déjà leur nouveau badge, du coup.
Ben voilà, mais là, dans les couloirs, en ce moment, ça sent un peu la peur. Parce qu'il y a près de 2/3 du Parlement européen qui a été renouvelé. C'est une première, d'habitude, c'est 50% des nouveaux députés et des anciens qui restent. Mais là, du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ménages et beaucoup d'assistants qui risquent de se retrouver sur le carreau le 1er juillet. Donc, il y a une espèce de grand mercato. Alors, on voit, ça sent un peu la peur, ça sent un peu le stress. Les assistants sont là à l'affût. Hier, j'ai croisé une copine belge qui me dit que sa députée n'avait pas été réélue et donc elle essayait de se caser chez les Français, mais que chez les Français, c'était assez bouché. Donc, elle essayait de voir avec les Roumains, les Portugais. Et donc, voilà, je vais t'emmener là-bas après les machines à café. Il y a une espèce de bloc qui s'appelle le One Stop Shop, c'est-à-dire le guichet unique où les assistants parlementaires viennent déposer, pour les plus chanceux, un contrat signé. Un contrat qui leur donne le droit de porter un beau badge bleu où figurera leur nom, celui de leur député, celui de leur propriétaire. Et donc on voit... Alors c'était la semaine dernière. La semaine dernière, c'était une espèce de deadline pour les anciens assistants qui ont retrouvé un nouveau député pour que les deux contrats se fusionnent et pour qu'il n'y ait pas une période d'inoccupation. Et donc il y avait une espèce de grande file comme ça où tout le monde attendait pour déposer un contrat. Et donc là, il y a une espèce de bocal en préfabriqué. Bonjour. Juste une petite question. Vous avez vu passer combien d'assistants parlementaires depuis les élections ?
Plutôt une centaine, hein. Mais...
Ah, donc il y a une centaine de sauvés déjà. C'est l'Arche de Noé, en fait, ici. Et je vous présente Karima Deli, qui, elle, également, est une rescapée du mandat précédent. La présidente, jusqu'en tout cas jusqu'au 1er juillet, la présidente de la commission des transports du Parlement européen, suivie de Pascal Durand, qu'on avait entendu dans la mensuelle numéro 5 sur les lanceurs d'alerte. Et comment se passe l'installation maintenant, alors, dans ce nouveau Parlement ?
Eh ben là, on a des bureaux provisoires. Alors, je sais pas pour Karima Deli. Moi, j'ai un bureau ministériel, donc j'ai jamais eu ça avant. J'aurais plus ça dans deux mois.
On se demande pourquoi.
Oh là là, il y a des soupçons de... Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Mais ça, c'est encore une pique. C'est parce que je suis passé maintenant dans un groupe qui est beaucoup plus puissant. Donc, évidemment, on a des bureaux beaucoup plus grands.
C'est pas la taille du bureau qui compte.
C'est quoi les enjeux pour cette prochaine mandature ?
C'est l'urgence climatique. Notre première action, c'est pas la taille de notre bureau, là. Non, c'est vraiment d'imposer, et je pense que Pascal Durand, on travaille ensemble sur ces questions-là, il sait très bien, il faut imposer l'agenda climatique, parce que vraiment, là, il y a urgence.
Ce que tu vois, Caroline, c'est que même s'ils sont pas du même groupe, ils vont devoir travailler ensemble.
C'est ça le charme à la fois et l'importance du Parlement européen, et c'est pour ça qu'il faut préserver cet espace, c'est qu'il n'y a pas de majorité politique au Parlement européen. Donc on peut prendre les postures qu'on veut dans les pays en expliquant qu'on est contre, qu'on est etc. La réalité, c'est qu'ici, si on veut faire avancer les choses, il n'y a pas de solution sans construire des majorités. Et c'est très très important. Et oui, bien sûr, la question climatique, mais la question climatique, elle se décline sur les transports, elle se décline sur l'énergie, elle se décline évidemment sur le social et sur l'économie. Il faut qu'on arrive à préserver ces équilibres, et ça, on le fera ensemble ou on échouera ensemble. Et c'est ça tout l'enjeu de cette mandature.
Là, on entend une musique un peu type tyrolienne.
Accordéon. On est sur de l'accordéon diatonique, là.
D'accord.
Ouais. Mais venez voir. Attention, alors ça, c'est toutes les semaines de Strasbourg, le groupe des conservateurs réformistes européens, l'ECR, la Creux, organise un concert de musique folklorique ou classique.
Oh, génial, mais il y a des danseurs, on les voit en bas.
Là, on est en face de la cantine du Parlement européen, donc il y a des danseurs folklore qui tournent en rond.
Avec des costumes traditionnels.
Voilà, c'est la meilleure preuve que ici on n'est pas déconnecté de la réalité et du terrain. Le terrain vient au Parlement européen.
Là, mais c'est quoi l'intérêt de cette petite danse ? C'est charmant, mais ils viennent défendre quelque chose ?
Il y a toujours un député polonais, hongrois, qui est là pour promouvoir l'identité de son pays, et donc ils invitent souvent des danseurs traditionnels comme ça pour mettre un peu l'ambiance au Parlement européen.
Alors, Maxime, nous nous sommes isolés dans une petite salle de taille modeste pour la suite de cet entretien au cœur du Parlement européen. On va parler ici de ce qui se joue en ce moment, puisque les élections ont eu lieu il y a 2 semaines. Et je voulais que tu me racontes qu'est-ce qui s'est passé depuis ici au sein de ces institutions. On imagine branle-bas le combat.
Les groupes ont été constitués. On sait à peu près quelles sont les tailles des groupes parlementaires. Mais maintenant, il faut se répartir les jobs. Parce que dans un Parlement, il y a un président... Il y a des vice-présidents, au Parlement il y en a une douzaine, il y a des commissions parlementaires, et chaque commission parlementaire a un président, des vice-présidents, il y a des délégations avec les États-Unis, avec le Japon. Pareil, il faut des présidents pour ces délégations. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de savoir qui va occuper ces postes-là. Et donc, il y a une grande tractation entre les groupes politiques qui a commencé. Et il y a une personne qui décide de tout. Ça fait 15 jours qu'il y a une personne, dès qu'on pose une question, qui va devenir le prochain président de la commission de l'environnement, il faut demander à Victor Dante. Pose la question, mais qui va devenir le premier vice-président du Parlement européen ? Réponse, il faut aller voir Victor Dante. Et Victor Dante, moi, j'ai longtemps pensé que c'était un fonctionnaire un peu caché. Tu sais, dans les films de James Bond, le type qui caresse un chat avec une bague en or. Et avec
qu'on voit que de dos.
Voilà, avec une voix un peu caverneuse. Et en fait, non, j'étais assez déçu. C'est José Luis Pacheco, qui est le chef d'unité de la Commission parlementaire Affaires constitutionnelles. Donc, c'est-à-dire un type qui lit le règlement intérieur du Parlement tous les jours, qui m'a expliqué qui était Victor Dante. Et en vrai, il est pas vraiment celui qu'on croit.
Bon, maintenant, il est décédé depuis, je dirais, même un siècle, parce que c'était un avocat, un politicien et un mathématicien belge du siècle XIX qui a inventé une méthode pour essayer de transformer les voix,
les votes,
oui, en mandat dans un parlement.
Cette formule qu'on appelle la formule de Victor Dante, la méthode Dante, c'est un genre d'algorithme qui te permet de distribuer les voix, de distribuer les jobs en fonction de la taille de ton groupe.
Tout à l'heure, on croisait des assistantes dans un couloir qui disaient qu'elles avaient réussi à décoder le système d'ondes pour faire elles-mêmes leurs calculs de leur côté, pour essayer de voir à quoi elles pouvaient prétendre, c'est ça ?
Alors, la méthode d'ondes, beaucoup en parlent ici au Parlement européen, mais je serais étonné s'il y a 10 personnes qui savent exactement comment ça marche. C'est un peu l'algorithme de Google. En vrai, ça décide de tout, mais personne ne sait vraiment comment ça marche. Moi, j'ai pas la formule secrète, mais je connais un type qui a le tableau Excel, qui m'a permis de faire des simulations. Je prépare qu'on regarde ça ensemble. Alors, la méthode d'ondes, à quoi elle va servir concrètement? Dans quelques jours, donc le 24 juin, on aura arrêté définitivement la taille des groupes, leur nom, leur composition, le nombre de membres. Et je ne sais pas exactement comment ça va se passer, j'ai jamais été dans cette salle-là, mais on imagine les secrétaires généraux des groupes politiques qui vont commencer à négocier. Donc on va se mettre autour d'une grande table et chacun aura le droit de parler. Et donc ça, c'est l'ordre de priorité établi par la méthode Dante. Le PPE a 180 députés, c'est le plus gros, il parle en premier. Donc c'est-à-dire que quand on va se retrouver autour de la table pour négocier, on va dire « PPE, la droite, à vous de parler ». Et le PPE va exprimer son premier choix. Donc le PPE va dire « Allez, on va prendre la commission des libertés ». Parce que le PPE est obsédé par les migrants, par exemple. Donc il va dire « Nous, ce qui compte, c'est la commission des libertés ». Hop, personne n'a le droit de les contredire, ils ont le droit de prendre la commission des libertés. La méthode Dante dit ensuite que ce sont les socialistes, qui ont à peu près 140 sièges, qui parlent en deuxième. Les socialistes vont dire « on veut la commission emploi ». Les affaires sociales, ça nous intéresse, personne n'a le droit de leur contredire ça. Donc en fait, ce que fait la méthode Dante, c'est que ça te donne un ordre, un tour de parole dans les grandes négociations sur les jobs, mais ce n'est pas un algorithme précis, c'est indicatif. Et d'ailleurs, la méthode Dante n'est pas dans le règlement intérieur du Parlement européen. En fait, c'est un moyen d'acheter la paix sociale entre les groupes politiques. Et d'ailleurs, Victor Dante était un avocat belge. Et c'est pas étonnant, en fait, que ce soit un Belge qui a inventé cette technique. C'était pour éviter que les Wallons, les Flamands, les Germanophones se tapent dessus. Et c'était un moyen de donner un peu d'ordre dans un processus politique qui est forcément chaotique, pour éviter que les plus gros l'emportent et que les petits soient complètement écrasés, mais éviter aussi que les plus petits emportent plus de sièges que des gros groupes politiques.
Alors Maxime, cette émission, la mensuelle, on l'a commencée en octobre dernier et chaque mois t'es revenu sur différents dossiers pour essayer d'expliquer ce qui se jouait et comment ça avançait. À chaque fois il y avait des choses auxquelles tu pouvais pas répondre parce que c'était des dossiers en cours et là tu as accepté d'aller revoir un petit peu ce qui avait changé depuis qu'on en avait parlé en octobre. On avait parlé notamment de l'environnement dans la mensuelle numéro 3 et il y avait cette question des sacs plastiques.
Alors ça, c'était une proposition qui était en cours d'adoption, c'était l'interdiction des plastiques à usage unique. Ça a été fait, c'est réglé, et la petite révolution qui s'est passée à Bruxelles, c'est que ce dossier, selon un article du Monde, a été réglé en 8 mois. 8 mois, alors que d'habitude, l'adoption d'une directive prend plus de 20 mois, le temps de gestation des éléphants. Alors que là, tout le monde s'y est mis, on a réussi à passer une directive en 8 mois, ce qui est un record avant les élections européennes.
Et donc ça, tu crois que c'est lié notamment aux marches pour le climat, toutes ces choses-là ?
Bah, y a plusieurs choses. Un, l'activisme du commissaire, qui est donc un Hollandais, Frans Timmermans, un diplomate me disait que s'il avait été sensibilisé à cette question, c'est parce que son fils travaille dans une ONG qui se bat justement pour dépolluer les océans et pour nettoyer les plages. Donc il y a eu l'activisme du commissaire qui s'est vraiment jeté complètement dans la bataille. Il y a l'attitude du Parlement européen. C'était une libérale, Frédéric Ries, qui était à la baguette et qui a réussi à trouver une majorité assez rapidement avant Noël. Et puis la conscience, évidemment, qu'avec les marches pour le climat, des jeunes un peu partout, les discours de Greta Thunberg, qui est venue il n'y a pas longtemps au Parlement européen, cette jeune Suédoise qui a réussi à sensibiliser beaucoup de gens à cette question, le Conseil a sûrement pensé qu'il fallait aller très vite, et on est allé très vite. 8 mois, encore une fois, pour une directive européenne, c'est du jamais vu.
Dans la mensuelle numéro 7, tu avais parlé de la fiscalité et du fait que peut-être que là, il y avait un enjeu pour les députés, justement, puisque c'est le gros dossier qui bloque à cause de l'obligation d'avoir l'unanimité pour changer les directives à ce sujet.
Voilà, donc chaque ministre des Finances a un droit de veto sur les questions fiscales. Le Parlement européen est complètement laissé de côté, mais est-ce qu'un Parlement européen plus légitime va avoir le courage d'aller au clash avec les ministres? Ça, c'est la question qui va... Rien n'a bougé pour l'instant. Il n'est pas impossible que rien ne bouge encore beaucoup. Les députés européens ont adopté un rapport dont on avait parlé dans la mensuelle numéro 7, pointant du doigt certains pays en disant qu'ils avaient des caractéristiques de paradis fiscaux. Est-ce que ce nouveau Parlement européen, peut-être plus légitime parce que mieux voté, mieux élu, va aller au clash et bloquer certains dossiers pour mettre fin à l'unanimité et essayer de résoudre la question de l'évasion fiscale? Ça, point d'interrogation.
Donc Maxime, par rapport à ce que tu avais comme prédiction dans ces différentes mensuelles, il y a pas mal de choses qui collent finalement avec ce que tu avais envisagé pour l'avenir.
Ouais, et c'est pas que je suis particulièrement bon, mais c'est qu'en vrai l'Europe est assez prévisible. C'est une espèce de gros bateau qui avance lentement, donc qui fait pas des demi-tours exceptionnels. En vrai, l'Europe, c'est un peu pour ça que ça intéresse pas beaucoup les gens. C'est que c'est très prévisible, il n'y a pas de grande révolution, il n'y a pas de grand soir. Mais l'avantage, c'est que quand on chronique sur l'Europe, on peut viser juste la plupart du temps.
Très bien. Eh ben, on mettra plein de liens pour étayer tout ça sur la page de l'émission sur Foule Continentale, sur le site de la RTBF La Première et de France Inter. On va maintenant essayer de deviner le futur pour l'Union Européenne après un peu de bonne musique choisie pour vous par Djoubaka. France Inter et la RTBF La Première. Dans cet épisode 42, on est assez solennel puisqu'on conclut l'année, on boucle la boucle des mensuels. On va faire les choses un petit peu différemment. Pour cette dernière, j'ai rencontré un journaliste qui est payé pour imaginer le futur. Il s'appelle Vincent Lucchese. Il est journaliste à Uzbek Erika depuis 2016 et je l'ai rencontré dans les bureaux de son journal. J'avais envie qu'il me raconte ce que pouvait être un avenir possible pour l'Union européenne. Et contrairement à ce qu'a dit Maxime, lui, il a envie d'imaginer une Europe qui bouge, une Europe révolutionnaire.
La porte est ouverte.
Ok.
Ah,
Vincent Lucas, on est dans les bureaux de Uzbek Erika. Moi, je lis cette revue et donc je suis assez excitée de voir qui travaille ici, à quoi ça ressemble. C'est en haut d'un escalier qui grince, près de Strasbourg-Saint-Denis à Paris. Et comme tes collègues de la rédaction, vous êtes en charge d'imaginer l'avenir, puisque la revue, c'est quoi son slogan ?
Le média qui explore le futur. On a cette idée de parler pour les générations futures de tous les changements en cours, comment ces changements impactent la société, aussi bien technologique avec les GAFA, est-ce qu'ils vont nous voler la démocratie, est-ce que ces fake news vont changer notre façon de voir le monde, que l'immortalité de l'homme avec le transhumanisme, la conquête de Mars, ou évidemment l'écologie qui est un sujet majeur quand on parle du futur.
Et donc tu t'es emparé de ce sujet de l'écologie pour imaginer une utopie. Tu as écrit un article qui s'appelle 2019, l'année où l'Europe a sauvé le monde. Tu vas nous raconter voilà, ton utopie.
C'est un peu une façon pour nous de nous défrustrer de tout ce qu'on écrit d'assez négatif quand on parle d'écologie généralement, parce qu'il n'y a pas souvent des bonnes nouvelles, et pour l'Europe non plus en ce moment. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur l'utopie, c'est-à-dire qu'en fait, la façon dont on raconte l'avenir, ça influe forcément sur ce qui se passe.
C'est vrai ça?
Bah,
ouais, c'est important.
Ouais, c'est important parce que c'est le récit est ce qui forge vraiment l'identité d'une communauté et notre façon de nous comporter, d'évoluer. Souvent sur l'écologie, on dit on n'arrive pas à croire ce qu'on sait. Il y a beaucoup de choses que les scientifiques nous disent, mais qu'on n'arrive pas à croire parce que ça bouleverse trop nos systèmes de croyances. Et donc, il y a cette idée, en fait, avec cette utopie, ce qu'on voulait faire, c'était cette idée que proposer un avenir enthousiasmant, c'est une façon de briser un petit peu ce blocage psychologique, et que proposer une solution qui soit pas forcément cataclysmique, c'était montrer que... pour être un petit peu mielleux, un autre avenir est possible, quoi.
Et puis se donner la sensation, parce que tu as beaucoup insisté sur les manifestations et l'importance de la prise en main par les citoyens de leur avenir. Oui, l'idée qu'on peut agir sur cet avenir.
On travaille avec des auteurs de science-fiction qui aussi font un peu le même travail que nous, mais en se lâchant plus sur l'imaginaire, justement, d'habitude. Et je notais dans l'article cette citation de Merjanian, qui disait que le futur n'est pas qu'une anticipation, c'est aussi une projection de désir, d'envie. Donc c'est un peu ce que je disais. On est aussi inspiré par Jean-Pierre Gou, un auteur qu'on aime bien, qui est venu ici, qui a écrit Siècle Bleu, qui est une espèce d'utopie écologique comme ça, mondiale, à l'horizon proche, qui imagine ça, que des citoyens, en fait, collectivement prennent en main leur destin avec ce qu'il appelle la percolation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on voit en ce moment beaucoup de signaux faibles comme ça, assez enthousiasmants sur le futur, de marche pour le climat, de sondages qui nous disent qu'en fait, tout le monde veut que l'écologie soit une priorité, de gens qui deviennent de plus en plus végétariens ou véganes, ce qui générationnellement est assez fort. On a par exemple 2-3% de végétariens en France, mais 9-10% chez les plus jeunes. Donc il y a comme ça une espèce d'accumulation de signaux faibles. Et l'idée, c'était de se dire qu'il y a cette espèce d'effet de seuil où, à un moment donné, tous ces petits signaux, un peu comme les petites bulles dans une casserole qui est sur le point de bouillir, sont pas encore reliés. Quand on atteint un seuil critique, toutes ces initiatives locales se lient entre elles. Et donc, ce que Jean-Pierre Gou, pour le citer encore, appelle la percolation, c'est que ça fait masse, ça fait société, à un moment donné. Alors qu'on s'y attend pas, bah voilà, de la même façon que le mur de Berlin, on s'attendait pas à ce qu'il cède et que c'était inattendu, bah là on est une espèce d'explosion de joie écologique européenne qui arrive, parce que les gens un peu partout relient ces initiatives qui semblaient si isolées 2 semaines avant, quoi. Notre idée, c'est de dire aussi qu'en fait, cette écologie qui arrive, qui explose en Europe, elle vient remplir un vide idéologique, en fait. Ce qui reprend un peu, en fait, des thèses du philosophe Bruno Latour, par exemple, qui explique bien ça, qu'on avait un clivage avant classique de droite-gauche ou local contre global, c'est-à-dire en fait le global c'est tous les gagnants de la mondialisation face à une réaction locale, c'est-à-dire le nationaliste qui sont pour le repli, pour la terre, pour les racines, contre les migrants. Et il y a en fait un basculement à 90 degrés de ce clivage-là sur un nouveau clivage qui serait terrestre contre hors-sol. Et c'est intéressant parce que ce nouveau clivage, en fait, il met évidemment l'écologie au centre, puisque c'est une question existentielle de survie aujourd'hui. Et c'est un clivage qui rebat les cartes, parce qu'on a d'un côté donc ces hors-sol qui sont des gens qui ne pensent pas la terre, le territoire, qui sont donc en partie ces forces libérales, et de l'autre côté ces terrestres qui reprennent une partie des arguments des locaux, donc une partie des arguments des nationalistes, c'est-à-dire l'attachement à la terre, mais d'un point de vue forcément philosophique extrêmement différent, avec un accueil des migrants, avec une relation à la terre, mais orientée différemment, quoi.
C'était quoi le point de départ pour toi de ton utopie ?
Ça commence souvent par une crise, une utopie. C'est comme ça que ça se renouvelle. D'ailleurs, l'écologie est fondée sur les crises. C'est ce que dit aussi l'historien Luc Semal, qu'on a aussi interviewé. L'écologie, depuis toujours, c'est une réponse existentielle à une crise existentielle. C'est l'écologie en France est née par la lutte contre le nucléaire, qui est une crainte d'apocalypse nucléaire. Et la crainte climatique qui fédère aujourd'hui les écologistes, c'est aussi une crainte existentielle. Donc l'écologie, c'est une réponse un changement global de système qui ne marche plus. Voilà, on se projette, on est en septembre 2019, l'été a encore été caniculaire, il y a eu des températures à 50 degrés dans l'est de la France, comme le prévoyaient malheureusement les climatologues, mais ça arrive encore plus tôt que prévu, il y a des pénuries alimentaires parce que les rendements agricoles sont laminés par ces espèces de chaleurs extrêmes dans tous les plateaux de l'est de l'Europe, ça engendre une chute des cours du blé en Russie, ça engendre une réaction en chaîne assez cataclysmique pour l'ensemble de l'économie mondiale. Et face à ça, encore une fois, comme à l'été 2018, les citoyens ont une prise de conscience, se réveillent. Il y a des marches pour le climat, comme en septembre 2018, en septembre 2019, ça recommence. Et là, ça prend une ampleur différente parce que la conscience monte. Donc on a plus de 500 000 manifestants dans les rues qui réclament des mesures d'urgence. Des mouvements de désobéissance civile aussi se multiplient. On a vu qu'Extinction et Rébellion, par exemple, multiplier des actions extrêmement visibles. NVCOP 21, Greenpeace, tous ces acteurs-là commencent à mobiliser. Qu'est-ce qui fait basculer? C'est finalement l'espèce de fameuse convergence des luttes qui n'a jamais lieu, mais qui cette fois a lieu entre crise sociale et crise écologique. Parce qu'en fait, ces gens se rendent compte qu'ils souffrent des mêmes maux, c'est-à-dire un capitalisme qui n'est plus du tout contrôlé et qui engendre une explosion des inégalités, en même temps qu'une explosion de la captation des ressources de façon assez morbide pour l'avenir de l'humanité.
Et ça, donc, c'est partout sur le continent, ces manifestations, ou ça s'est déroulé où cet été?
Oui, alors on a eu ça d'abord à Paris, à Bruxelles, un peu à Berlin aussi, donc dans ces espèces de villes d'Europe de l'Ouest qui étaient très concernées par l'écologie. Et ça se répand parce que finalement, tous ces citoyens, on se rend compte que la crise sociale qui est plus présente encore dans l'Est, finalement arrive à faire écho à cette crise écologique. Et donc tous ces gens à Prague, à Budapest, à Madrid, même à Londres, ça s'allient et donc commencent à coordonner leurs actions. On a vu que certaines ONG comme ça étaient très internationales, déjà très connectées. Donc il commence à y avoir des actions de blocage de mines en Pologne, de blocage d'aéroports à Londres, de blocage de sites de production de voitures diesel en Allemagne. Et tout ça commence à se nouer. Et on a cette espèce de phénomène de percolation où tous ces petits mouvements qui étaient assez indépendants les uns des autres commencent à faire lien, franchir un effet de seuil qui fait que ça y est, ça bascule et qu'on a ce mouvement de bascule qui opère.
Toi, tu parles dans tes utopies d'une Europe à deux vitesses et d'une envie que ces revendications soient prises en charge par peut-être une petite partie des pays européens.
Mais voilà, l'idée, c'est de dire effectivement qu'il y a cette pression énorme populaire qui fait que les gouvernements sont obligés d'agir, ont envie d'agir, mais qu'il y a cette espèce de sempiternelle inertie en Europe, ce besoin d'unanimité, ce besoin d'agir tous ensemble qui freine énormément. Et cette fameuse idée d'Europe à deux vitesses qui ressurgit et qui finit par se mettre en place parce qu'elle est permise en fait par les traités. C'est pas si utopique que ça. On sait qu'il y a des propositions. Il y a par exemple le processus de coopération renforcée qui existe aujourd'hui, qui permet à certains pays au sein de l'Union d'avancer plus vite que d'autres sur certaines thématiques précises. J'ai repiqué l'idée aussi de Piketty qui avait écrit avec 120 intellectuels en 2018 un appel pour un traité de démocratisation de l'Europe en disant voilà, il faut un vrai budget européen qui soit démocratique, donc soumis à une assemblée parlementaire européenne, qui soit constituée à la fois de députés nationaux et de députés européens, donc qui soit vraiment légitime, et qui permette avec un budget conséquent, donc d'avancer vraiment sur des thématiques chères aux Européens pour fédérer un vrai sentiment de peuple européen. Et donc on aurait cette Europe des 10 qui avancerait, une espèce de noyau dur d'avant-garde européen qui avancerait vers une espèce de début de fédération européenne en misant sur un budget qui serait financé par des choses perçues comme légitimes, donc une taxe carbone aux frontières de l'Europe, une taxe sur les transactions financières, une espèce de rejet des paradis fiscaux, des choses acceptées et demandées par les citoyens et qui permettraient d'avoir un vrai budget. Donc on aurait par exemple des propositions de subventions intégrales de la rénovation des bâtiments en Europe, transport gratuit pour tout le monde, de subventions intégrales de l'alimentation bio parce que c'est des besoins de subsistance importants. Et en contrepartie, comme les budgets, comme on nous le rappelle souvent, ne sont pas extensibles à l'infini, ça irait avec une vraie proposition de nouvelle civilisation européenne en fait. Là, on aurait une vraie proposition, un vrai deal à passer avec les citoyens en mode « Ok, on vous fournit tout ce qui est nécessaire pour répondre à la crise sociale, logement, nourriture, conditions de santé assurées, et en échange, vous arrêtez de consommer n'importe comment, et on sort de la société de consommation. » Ce qui est résumé par le slogan que j'avais noté « Plus de pouvoir d'être contre moins de pouvoir d'achat. »
C'est toi qui as eu cette idée.
Ouais, c'était mon côté politicard frustré, en fait. J'imaginais très vieux avec ça.
Tu t'es vue aussi en femme écolo-présidente avec un slogan « La croissance est terminée, le progrès peut commencer ».
Ouais, exactement. Bah, c'est cette idée que reprennent beaucoup d'écolos et que d'ailleurs l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, qui a publié un rapport récent, insiste beaucoup là-dessus sur le fait qu'il faut sortir ce paradigme éternel de la croissance si on veut éviter que la biodiversité s'effondre complètement et in fine que l'humanité s'effondre également. L'achat va être interdit. tout simplement, pour la plupart des objets de subsistance non vitaux, c'est remplacé par l'économie d'usage. Donc les entreprises restent propriétaires de leurs produits, ce qui incite forcément à la durabilité des produits et donc à sortir de l'obsolescence programmée, qui est une cause majeure, par exemple, de surconsommation. On sort de la croissance, c'est-à-dire on instaure la semaine de 20 heures, tout le monde travaille, mais beaucoup moins qu'avant et avec moins de pouvoir d'achat, mais c'est le jeu. Avec cette idée, voilà, que la croissance s'est terminée, place au vrai progrès, ce que nous a inspiré le philosophe belge Pascal Chabot, notamment, qui travaille sur ces questions, qui parle de progrès subtil. Le progrès, c'est pas forcément aller plus vite de Paris à Nantes en avion, le progrès, c'est peut-être à prendre plus le temps et à ne pas aller à Nantes si c'est pas indispensable. C'est du progrès qu'on n'a pas l'habitude de connaître, mais que nous proposent ces écologistes avec leur nouvelle civilisation européenne. Trump, qui est sur le point d'être réélu, joue à fond la carte isolationniste qui plaît à ses électeurs. Donc, lors d'une réunion du G7, il décide de claquer la porte parce qu'un tweet lui a déplu, écrit par Emmanuel Macron. Et donc, en un second tweet, il répond, puisque c'est comme ça, les Américains vont sortir de l'OTAN. Et donc, là, stupéfaction, crise générale en Europe, sentiment d'impuissance. Poutine attend que ça pour envahir l'Estonie. Donc, voilà, ça se bouscule dans tous les sens. Et ça finit de fédérer les Européens qui se disent, bah, écoutez, cette Europe des neufs, elle avance bien. Les crises sociales ont l'air d'être en plein reflux. On ne sait pas trop s'ils sont en croissance parce qu'ils ont abandonné le PIB comme indicateur. Ils savent plus trop, ça les intéresse plus. Donc c'est bizarre, on ne sait plus trop ce que c'est que ce modèle, mais ça a l'air pas mal. Donc on va les suivre. Et donc voilà, la plupart des autres pays de l'UE rejoignent ce groupe pour la rédaction d'une constitution européenne qui renégocie les traités avec ses alliés, qui change les traités de libre-échange en traités de résilience, qui impose une règle verte, qui impose qu'on ne prélève pas dans la nature davantage qu'elle peut générer chaque année. Voilà, et donc cette nouvelle Europe, l'Europe du donut, par exemple, qui reprend l'idée d'une économiste européenne anglaise, Kate Raworth, qui est une économie résiliente où on ne travaille plus en courbe exponentielle, on travaille en cercle, où il faut rester entre le petit cercle qui est celui de la subsistance et le grand cercle qui est celui des limites écologiques. Et donc les étoiles européennes sont remplacées par deux beaux filets jaunes qui représentent cette nouvelle économie régénérative et circulaire européenne.
Donc on termine l'année avec un nouveau drapeau européen.
Un nouveau drapeau et un nouvel espoir européen qui finit par entraîner le monde parce que tout le monde se rend compte que ça marche. Et donc la Chine, très pragmatique comme d'habitude, se dit ça marche, on va faire pareil. Et c'est parti, et le monde a encore de belles choses à inventer, mais est sur la bonne voie.
Waouh.
Ouais, c'est puissant l'utopie, hein. Ça marche bien. On n'est pas sûr que ça se réalise, mais montrer des possibles, ça permet de sortir un peu aussi du marasme et des prophéties autoréalisatrices, parfois un peu trop pessimistes.
Voilà, normalement vous êtes comblés de possibles. Merci à Vincent Lucchez, merci à Noé Debré, merci bien sûr à Maxime Caligaro d'avoir été notre guide dans le brouillard bruxellois ces derniers mois. J'ai adoré ce voyage dans les institutions avec toi. Merci à Benjamin Riquet à la réalisation, à Martine Messonnier au montage, merci à Mathilde Picard, à Claire Brault pour ses dessins que vous retrouvez sur la page Facebook de l'émission, sur Twitter, sur Instagram. Et puis Full Continental peut être écouté sur franceinter.fr et sur le site de la RTBF, ainsi que dans toutes les applications de podcast. Rendez-vous pour l'épisode 43, ce sera le dernier, on sera en Irlande et en Italie, dans des cabanes, dans des HLM, dans des pubs et tout en haut d'un phare. Beau dimanche à vous tous et à la semaine prochaine.
Merci Caroline Gillet, bel après-midi sur Inter. On poursuit juste après les infos avec Zoé Varier, une journée particulière. Son invité sera Pauline Bureau pour sa pièce Hors la loi au théâtre du Vieux Colombier. Vous écoutez France Inter, il est 14h.